Bonjour, nous vous proposons aujourd'hui une émission qui est la rediffusion d'une émission légèrement remodelée, enregistrée en direct ici même dans nos studios le 14 avril 2008, soit il y a presque 8 ans. Cette émission est un hommage à Jacques Prévert, et plus précisément à cette période de son œuvre correspondant au début du poète, à savoir la période du groupe Octobre 1932 à 1936. Période extrêmement riche en créativité et en engagement social et politique. La compagnie Papier Froissé, animée par Combord, par ailleurs animateur lui aussi à Radio Canut, a bien voulu prêter son concours à ce projet et vous entendrez au fil des textes Bruno, Claire et Combord. En préambule, vous allez pouvoir écouter « Marche ou crève », un texte de Jacques Prévert mis en musique par Louis Bessières et interprété là par Catherine Sauvage. Bonne écoute.
Le ventre creux, les pieds en sang, marchons, marchons, marchons gaiement. On touche que le quart d'une ration, le bidon est rempli de courant d'air. Mais nous portons la fourragère, l'été à l'ombre des drapeaux. On est au frais, il fait si beau. Ceux qui tomberont d'insolation seront sûrs de pas claquer cet hiver d'une bonne congestion pulmonaire. Marche ou crève, marche ou crève, marche ou crève, où allons-nous? Nous allons dans le nord, on a besoin de nous. Nous on est du sud, pourquoi y allons-nous? Nous allons dans le nord parce qu'il y a des grèves. Marche ou crève, marche ou crève, marche ou crève. Toi tes vignerons dans le midi, et c'est dans l'or qu'il y a la grève. Si on te laissait dans ton pays et qu'on te donne l'or de tirer, tu ne tirerais pas sur ton père. Moi je suis pêcheur dans le Finistère. Explique-moi pourquoi je tirerais sur un mineur du Pas-de-Calais. Les travailleurs sont des frères, faut pas nous laisser posséder. Rien à faire, rien à faire, s'il faut tirer sur nos frères. On refuse pas de tirer, on peut pas tirer, on peut pas viser. Le fusil est bouché, la gâchette rouillée, les cartouches mouillées. Rien à faire, rien à faire, rien à faire.
Une émission autour de Jacques Prévert, plus précisément du groupe Octobre, puisqu'en mai 2007 paraît un livre de Jacques Prévert intitulé Octobre, sketch et cœur parlé pour le groupe Octobre 1932-36, des documents la plupart inédits que les amoureux de l'univers de Prévert attendaient depuis longtemps. Cette période de Prévert, d'avant Prévert, où le jeune Prévert faisait de l'agit-prop en écrivant rapidement des textes en réaction aux événements, qui étaient aussitôt joués en diverses circonstances dans la rue, sur des lieux de grève ou de manifestations ou de fêtes. Texte en partie perdu, car l'objectif n'était pas de faire une œuvre, mais de conscientiser les travailleurs en commentant et en donnant à lire l'actualité. Texte souvent virulent, voire violent, dit et mis en espace aussitôt par un groupe de jeunes artistes plus ou moins informels, qui sera connu sous le nom de Groupe Octobre. Ainsi donc, avant le Front Populaire, qui un peu bizarrement marquera la fin et la dislocation du Groupe Octobre, des textes étaient écrits et joués contre la bourgeoisie. Ce sont quelques-uns de ces textes que la compagnie Papier Froissé, avec nous ce soir dans les studios de Radio Canut. Bonsoir à vous. Il y a là Claire, Bruno, Jean-Pierre et Combord.
N'oublions pas que parallèlement, Jacques Prévert travaillait avec le groupe des surréalistes encore à cette époque-là et il n'avait pas encore eu la scission avec notamment André Breton.
Alors, cette compagnie papier froissé qui, en 2008, jusqu'à un certain point, est un peu un groupe octobre de son époque.
Ouais, mais on est au mois de avril.
Alors, ce sera le groupe mai. On aura peut-être en fin d'émission, puisqu'on va passablement remplir de textes qu'ils vont nous interpréter donc en direct de Jacques Prévert. On aura sans doute le temps de parler un peu après, de commenter tout ça et de parler peut-être aussi de la compagnie Papier Froissé. Alors on a retenu parmi le texte de tous les textes de ce bouquin, qui est épais, il y a plus de 400 pages, quoi, un certain nombre de textes particulièrement caractéristiques de l'ambiance et de l'univers qui était celui de ce groupe Octobre. Le premier s'appelle « Avènement d'Hitler, actualité ». C'est un texte du 30 janvier 1933, donc c'est l'époque où, le moment même où Hitler était nommé chancelier, et le jour même, Prévert écrit ce texte qui sera joué au meeting des petits commerçants sur la scène du bal Bullier. Je connais pas le bal Bullier, c'était à Paris. Hein. Avec une lanterne magique qui projetait des images des violences nazies à Berlin de ce moment-là. Ce soir, pas de projection d'images sur votre écran radiophonique, mais des sons. On vous écoute.
L'avènement d'Hitler, actualité.
Braves gens, vous pouvez dormir sur vos deux oreilles. Dormez, braves gens.
Mais... Crache, crache, crache.
Les banques de New York baissent leurs rideaux de fer. Les braves gens sont debout, livides, au bas du lit.
Qu'est-ce que vous dites? Je suis mal réveillé.
La bourse de New York va fermer.
Comme c'est prêt, New York. Comme c'est prêt. Câblé, câblé, câblé.
Ça va mal au pays de la prospérité. Ford demeure maintenant au rez-de-chaussée. S'il se jette par la fenêtre, on pourra peut-être le sauver.
Ça va mal, lui.
Le bourgeois pleure des larmes et grince des dents. Il devient de plus en plus méchant. Comme ce grand homme mythologique qui n'était sensible qu'aux talons, le bourgeois n'est sensible qu'aux frics, même quand on lui joue du violon. Il tuerait bien tout le monde pour garder sa maison, mais il ne peut pas tuer lui-même. Il faut qu'on croie qu'il est bon. Alors il cherche un homme, comme Diogène. Alors il trouve un homme au fond d'un vieux tonneau de peinture.
Hitler. Hitler. Hitler.
L'homme de paille pour foutre le feu, le tueur, le provocateur. On présente d'abord le monstre en liberté, on le présente aux ouvriers. C'est un ami, presque un frère, un ancien peintre en bâtiment.
Le moindre mal, quoi. C'est moins dangereux qu'un général, un ancien peintre en bâtiment.
Et maintenant, les quartiers ouvriers sont peints couleur de sang. Là-bas, c'est Hitler. Ici, demain, si l'ouvrier se laisse faire... Ce sera Tardieu, ou Végan, ou un autre. Travailleurs, attention. Votre vie est à vous. Ne vous la laissez pas prendre. Socialiste, sans parti, communiste. La main qui tient l'outil ressemble à la main qui tient l'outil. Serrez les poings. Travailleurs, attention. Il faut matérialiser votre haine. Haïr, lutter, s'unir. Voilà nos cris. Plus que jamais.
Prolétaires de tous les pays, unissez-vous!
C'était donc le texte Avènement d'Hitler, actualité. Prévert, bien sûr, suivait cette actualité, et peu de temps après, le 1er décembre 1933, enfin la fin de l'année 33, donc, 6 ouvriers antifascistes ont été exécutés à Cologne le 30 novembre, à la suite de l'incendie du Reichstag le 27 février. Et sans que ces ouvriers soient impliqués dans l'attentat, mais ça arrangeait Hitler de les présenter comme responsables. Prévert a eu ce réflexe, cette envie d'écrire ce texte qu'il a appelé « La tête sur les épaules ».
Camarades, 6 ouvriers ont été tués. Tués à coups de hache le 30 novembre dernier. Vous l'avez lu dans le journal et puis vous vous êtes indigné. Et vous l'avez raconté aux autres. Et les autres aussi se sont indignés. Ils ont crié, ils ont tapé sur la table. Les femmes avaient les larmes aux yeux et puis les jours ont passé. Très vite. Là-bas, le sang a séché et de nouvelles têtes vont tomber. Les hommes vivent mal. Ils s'habituent à la mort des autres. Ils s'indignent, ils crient, ils menacent dans le vide. Et puis quoi? Le temps passe. Très vite. Les tueurs réclament aujourd'hui la tête de Torgler. Une seule tête, disent-ils, leur suffirait pour le moment. La tête de Torgler, une tête d'Allemand. Ils la demandent. Ils disent qu'elle est à eux, que c'est leur chose. Camarades, ils ne veulent pas seulement la tête de Torgler. Ils veulent aussi celle de Tanev, celle de Popov, celle de Dimitrov. Ils ne veulent pas seulement la tête de Torgler, ils veulent aussi la peau des prolétaires. Camarades, vous qui êtes là, vous qui nous entendez, vous qui avez la tête sur les épaules, nous qui vous parlons, nous avons aussi la tête sur les épaules. La tête sur les épaules. Nous sommes vivants. Là-bas, les plus vivants sont menacés de mort. Défendez-les. Défendez-vous.
La tête sur les épaules ou exécution en Allemagne nazie, c'est donc ce texte de décembre 33 que Prévert a écrit en réaction à l'exécution du 30 novembre 33 de 6 ouvriers antifascistes. 1933, une année très fertile pour le groupe Octobre, qui était très actif, qui jouait beaucoup, enfin, sans peut-être beaucoup répéter, mais Prévert avait l'écriture facile et aussitôt on jouait ça sur scène. Une grève chez Citroën le 18 mars 33, et Prévert avait coutume, oui, dans ses prestations du groupe Octobre, de faire ce qu'il appelait des actualités, un peu les actualités qu'on a connues un temps au cinéma ou le journal télévisé du soir, si vous voulez, mais bon, présentées à la manière de Prévert. Et ce texte sur la grève à Citroën est un texte que j'aime beaucoup. Celui-là était connu parce que Prévert l'a enregistré à la fin de sa vie. Enfin, on en a des enregistrements pas très faciles à trouver, mais qui existent, quoi. Et il est d'une actualité brûlante, puisque c'est toujours un peu la même problématique, que ce soit en Roumanie, en France, en 33 ou en 2008. Et il a été vraisemblablement créé, donné pour la première fois à la Maison des syndicats avec des grévistes de Citroën le 18 mars 33.
Dans les sales quartiers de misère, ce sont de petites lueurs qui luisent. Quelque chose de faiblard, de discret, des petites lanternes, des quinquets. Mais sur Paris endormi, une grande lumière grimpe sur la tour, une lumière toute crue.
Citroën, Citroën.
C'est le nom d'un petit homme. Un petit homme avec des chiffres dans la tête. Un petit homme avec un sale regard derrière son lorgnon. Un petit homme qui ne connaît qu'une seule chanson. Toujours la même.
Bénéfice net.
Millions, millions.
Une chanson avec des chiffres qui tombent en rond.
Qui tombent en rond.
500 voitures, 600 voitures par jour.
Trottinette, caravane, expédition, auto-chenille, camion.
Bénéfice net, millions, millions. Citron, citron.
Même en rêve, il entend son nom.
500, 600, 700 voitures. 800 autocamions, 800 tanks par jour, 2000 corbillards par jour.
Et que ça roule.
Et que ça roule.
Il sourit. Il continue en chanson. Il n'entend pas la voix des hommes qui fabriquent. Il n'entend pas la voix des ouvriers. Il s'en fout des ouvriers.
Un ouvrier, c'est comme un vieux pneu. Quand il y en a un qui crève... On ne l'entend pas crever.
Citroën n'écoute pas. Citroën n'entend pas. Il est dur de la feuille pour ce qui est des ouvriers. Pourtant, au casino, il entend bien la voix du croupier.
Un million, monsieur Citroën, un million.
S'il gagne, c'est tant mieux, c'est gagné. S'il perd, ce n'est pas lui qui perd. Ce sont 16 ouvriers, ce sont 16 ouvriers. C'est toujours ceux qui fabriquent, qui en fin de compte sont fabriqués. Et le voilà qui se promène à Deauville. Le voilà à Cannes, qui sort du casino. Le voilà à Nice, qui fait le beau sur la promenade des Anglais. En petit veston clair.
Beau temps aujourd'hui.
Et le voilà qui se promène, qui prend l'air. À Paris aussi, il prend l'air des ouvriers, il leur prend l'air, le temps, la vie. Et quand il y en a un qui crache ses poumons dans l'atelier, ses poumons abîmés par le sable et les acides, il lui refuse une bouteille de lait.
Une bouteille de lait? Qu'est-ce que ça peut lui foutre? Il n'est pas laitier. Il est Citroën.
Il a son nom sur la tour. Il a des colonels sous ses ordres, des généraux gardes, chiourmes, espions. Les journalistes mangent dans sa main. Le préfet de police rampe sur son paillasson.
Citron ? Citron ? Millions, millions.
Et si le chiffre d'affaires vient à baisser ? Pour que malgré tout les bénéfices ne diminuent pas, il suffit d'augmenter la cadence et de baisser le salaire des ouvriers.
Baisser les salaires !
Mais ceux qu'on a trop longtemps tondus en caniche, ceux-là gardent encore une mâchoire de loup pour mordre, pour se défendre, pour attaquer, pour faire la grève, la grève, la grève, vive la grève !
Citroën, les actualités de Jacques Prévert, 18 mars 33. Le groupe Octobre, comme je vous le disais, était très actif et réagissait à tous les événements. Le 6 février 34, la manifestation des ligues fascistes qui, à Paris, a failli renverser la République. Et 8 mois après les événements de février 34, Prévert ne les a pas oubliés, bien entendu, et le 31 octobre, il écrira « Il ne faut pas rire avec ces gens-là », un spectacle créé salle Bullier pour le 17e anniversaire de la Révolution d'octobre. Et là aussi, il garde toute cette actualité, cette dénonciation de la bourgeoisie vampire et du grand capital déjà là et toujours là. Celui qui s'appelait Schneider et Krupp à l'époque s'appelle aujourd'hui Areva ou Veolia, mais soyez tranquilles, ce sont les mêmes.
Camarades, vous avez l'oubli trop facile. Et votre colère tombe vite. Vous êtes vivant, vous aimez rire. Le bourgeois raconte qu'il aime rire, alors vous riez avec lui. Pourtant, son rire n'est pas le même que le vôtre. Ce n'est pas un véritable rire. L'homme rit. Le bourgeois ricane. Écoutez, en 1871, les communards sont tombés par milliers. Monsieur Thiers souriait. Les femmes du monde souriaient. Elles se payaient une pinte de bon sang. Pendant la fameuse, glorieuse, dernière, avant-dernière grande guerre, le président Poincaré rigolait dans les cimetières. Oh, pas aux éclats, naturellement. Un petit rire discret, un petit gloussement, un rire d'homme du monde, un rire joyeux d'outre-tombe. Depuis le mois de février, on a tué en France beaucoup d'ouvriers, et le président Doumergue n'a pas cessé de sourire. C'est une habitude, un tic. Debler aussi, quelquefois sourit. Tardieu aussi. Hitler aussi. C'est le sourire du capital, le sourire de la bourgeoisie. C'est le rire de la vache qui rit. Un rire aimable. Un sourire impitoyable.
Excusez-moi, je regrette. Dans le fond, je vous aime bien. Et si je donne l'ordre de vous abattre comme des chiens, c'est parce que c'est la coutume, je suis là pour ça. Je n'y suis pour rien. C'est la coutume, il y a trop de travailleurs dans le monde, il faut les expédier dans l'autre. Trop de travailleurs, trop de cafés, trop de sardines, trop de betteraves, trop de fraises des bois, trop d'instituteurs. À la mer le café, aux vestiaires la canne à sucre, à l'égout le beurre, aux chiottes les primeurs, en prison les travailleurs.
En prison les travailleurs, quelle bonne plaisanterie! Le Schneider, le Krupp, le Daudet, le Léon Balbi, le monsieur des filatures, celui du pétrole et celui de l'agent Savas se tapent joyeusement sur les cuisses. Quelle bonne plaisanterie !
Mais il y a trop de travailleurs dans le monde. Il faut les expédier dans l'autre.
Et le sourire de la bourgeoisie s'est figé. La prochaine guerre va commencer. Le jour de gloire est arrivé, on décore les abattoirs... On pavoise chez les vieillards, c'est la jeunesse qui va crever. Mais avant qu'elle s'en aille, il faut la photographier. L'ouvrier, le paysan, le vendeur des galeries s'en vont mourir pour la patrie. Souriez, jeunes gens. Votre fosse est fraîchement creusée. Souriez. On va vous tirer le portrait. Quelle bonne plaisanterie.
Quelle bonne plaisanterie. Ma mère me disait pourtant.
À la pêche, à la baleine, à la pêche, à la baleine, disait le père d'une voix courroucée à son fils, Prospère, sous l'armoire, allongé. À la pêche, à la baleine, tu ne veux pas aller? Et pourquoi donc? Et pourquoi donc que j'irai pêcher une baleine qui m'a rien fait, peu pas? Va la pépé, va la pêcher toi-même, puisque ça te plaît. Moi, j'aime mieux rester à la maison avec ma pauvre mère et le cousin Gaston. Alors, dans sa baleinière, le père tout seul s'en est allé sur la mer démontée. Et voilà le père sur la mer, voilà le fils à la maison, voilà la baleine en colère, et voilà le cousin Gaston qui renverse la soupière au bouillon. La mer était mauvaise, mais la soupe était bonne. Et voilà sur sa chaise, Prospère qui se désole. À la pêche, à la baleine, je ne suis pas allée. Et pourquoi donc j'ai pas été? Peut-être qu'on l'aurait attrapé alors. J'aurais pu en manger. Mais voilà la porte qui s'ouvre. Et ruisselant d'eau, le père apparaît hors d'haleine, tenant la baleine sur son dos. Il jette l'animal sur la table. Une belle baleine aux yeux bleus. Une bête comme on en voit peu. Et dit d'une voix lamentable. Dépêchez-vous de la dépecer. J'ai faim, j'ai soif, je veux manger. Mais voilà Prospère qui se lève et regardant son père dans le blanc des yeux, dans le blanc des yeux bleus de son père. Bleus comme ceux de la baleine aux yeux bleus. Et pourquoi donc que je dépecerais une pauvre bête qui m'a rien fait? Tant pis, j'abandonne ma part. Puis il jette le couteau par terre. Mais la baleine s'en empare et se précipitant sur le père, elle le transperce de père en père. Ah ah, dit le cousin Gaston, ça me rappelle la chasse aux papillons. Et voilà, voilà Prospère qui prépare les faire part. La mère qui prend le deuil de son pauvre marin. Et la baleine, la larme à l'œil, contemplant le foyer détruit. Soudain, elle s'écrie. Et pourquoi donc que j'ai tué ce pauvre imbécile? Maintenant les autres vont me pourchasser en motogodille et puis ils vont exterminer toute ma petite famille. Alors, éclatant d'un rire inquiétant, elle se dirige vers la porte et dit à la veuve en passant. Madame, si quelqu'un vient me dire, on dit, soyez aimable et heureux, on dit. La baleine est sortie. Asseyez-vous, attendez-la, elle ne va pas tarder. Dans une quinzaine d'années, sans doute, elle reviendra. Elle reviendra.
Pause musicale avec Agnès Capri qui interprétait La pêche à la baleine. C'est un texte qui est dans ce bouquin des textes du groupe Octobre, donc qui était dit déjà par le groupe Octobre. L'enregistrement là est ancien, mais peut-être pas à ce point-là, bien qu'Agnès Capri fonctionnait déjà avec son cabaret à la fin des années 30, quoi. Je pense qu'elle l'a enregistré quand même un petit peu après. Ce serait toute une histoire que celle d'Agnès Capri et de Prévert. Elle a été une des premières à dire et à chanter du Prévert. La musique est de Cosma, là, bien entendu. Mais pour l'heure, nous revenons dans les studios de Radio Canuck. Nous n'avons pas quitté, d'ailleurs, avec la compagnie Papier Froissé pour interpréter des textes du groupe Octobre, extraits de ce bouquin récemment paru, donc qui regroupe tout ce qu'ils ont pu trouver de textes du groupe Octobre. Là, on va changer de milieu social, puisque 29 novembre 1934, un drame à la cour. Prévert commente à sa manière le mariage du duc de Kent et de Marina de Grèce, un événement people digne des frasques sarkozyennes.
Et sur son trône, le roi est assis, face au public. En face de lui, mais assise un peu plus bas, sa fille, la princesse, Marina. Le roi est d'excellente humeur. Il écoute son bouffon qui lui propose une charade.
Charade ! Votre premier ministre est un imbécile, hein ? Votre second ministre est un idiot. Votre troisième ministre est un crétin. Votre quatrième ministre est...
une fripouille. Quelle est la solution, bouffon ?
La solution, sire, vous êtes le roi des cons.
Quoi ? Le roi des... Mais c'est une infamie. Traitez le sire ainsi. C'est une révolte ?
Non, sire, c'est une révolution.
Il s'enfuit.
À bas,
à bas le tyran ! À bas le roi ! À bas le roi !
Tragique destin. Destin tragique. Mes sujets sont devenus de mauvais sujets. Tragique destin. Ils veulent me percer la barrique.
Ah bah le roi des andouilles. On va lui couper les couilles.
Oh bon le tyran.
Quoi? Quoi? Il parle déjà de me couper les oreilles. Mais il faut s'enfuir rapidement, sans perdre un instant, s'enfuir tout de suite, partir immédiatement et le plus tôt possible. Lève-toi, ma fille. Lève-toi, Marina.
Elle se lève, toujours le dos tourné au public. Crie des émeutes.
Ouais, bon tirant,
Marina, 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 si tu n'étais pas là, je resterais ici. Afin de montrer à cette ville populace comment c'est mourir le roi, 5 et 3 font 8 et 8 et 8 font 16 de Hongrie. Mais avant que de s'enfuir, il faut que je te dise toute la vérité. J'ai un secret d'État à te confier. Écoute, mais sans faiblir, Marina. C'est de toi qu'il s'agit, Marina. J'ai trop longtemps gardé ce grand secret. Écoute, l'atroce vérité, Marina... Tu n'es pas ma fille. Tu es mon fils.
La princesse se retourne. Elle porte une grande barbe noire.
Ah, mon Dieu! Je m'en étais toujours douté.
Un drame à la cour, donc la cour de Grèce.
À la cour.
Un drame à la con, la cour de Grèce. C'est un texte de Jacques Prévert de 1934. On revient en 1933 avec un autre texte qui était un sketch écrit pour un film qui devait se tourner en Tchécoslovaquie et qui finalement n'a jamais été tourné. Le titre en est « La crise » ou « Croc doré ».
La petite scène, dont le fond est séparé en deux par une planche formant cloison entre deux pièces, donne sur le devant de la scène figurant la rue. À gauche, une pièce très bien éclairée, avec le lustre acheté au début par Charles, le gros bien vêtu. Au mur, un porte-manteau avec des costumes divers, un tableau de famille et le téléphone. Sur la table servie, le poulet est en carton. À droite, pièce beaucoup plus petite, mansardée, éclairée seulement par un bec au air. Au début de ce sketch, exécuté d'une façon très rapide, comme au cirque, les deux pièces sont dans l'obscurité. Dans la rue, devant la maison. Un chômeur se promène, de long en large, en répétant
« Achetez-moi des allumettes. Achetez-moi des allumettes. »
Arrive un gros bien vêtu, avec chaîne de montre, qui s'arrête un instant et le regarde comme une bête curieuse.
« Achetez-moi des allumettes. Je n'ai pas de travail. C'est la crise.
»« La crise. La crise. Vous me faites rire. Moi, ça n'existe pas, la crise. Je m'en fous. Tenez, tiens, c'est comme vos allumettes. Je n'en ai pas besoin. J'ai un briquet. »
Il sort un énorme briquet de sa poche, l'allume et l'éteint brusquement en ricanant. Soudain, Il s'arrête et, s'apercevant, grâce à la lueur de son briquet, que le chômeur est bossu, il s'avance vers lui.
Vous permettez?
Bien sûr.
Le gros lui touche et lui retouche la bosse, puis sort une pièce de monnaie de sa poche et la donne au chômeur.
Tenez, mon brave, et attendez-moi un instant, je vais chercher ma femme.
Il se précipite, le petit rideau de la pièce de gauche se lève, il entre, passe devant lui un autre chômeur.
Une allumette.
Tiens.
Merci.
Pas de quoi. Achetez-moi des allumettes. Des allumettes.
Pendant que le second chômeur pénètre dans la pièce de droite et allume le gaz, une très faible flamme, avec les allumettes données par l'autre. Une chaise, une table, et sur la table, une assiette vide. Le deuxième chômeur s'approche de l'assiette, la regarde, la soulève, regarde dessous.
Merde.
Il s'assied, les coudes sur la table et la tête entre les mains.
Achetez-moi des allumettes. Des allumettes.
À droite, monsieur et madame Gros Doré s'installent à la table. Monsieur Gros Doré met sa serviette autour de son...
Les hors-d'œuvre sont magnifiques.
La femme se lève et prend son chapeau au porte-manteau. Non, décidément, ce soir, je n'ai pas faim.
S'il fallait avoir faim pour manger, ce serait véritablement pas la peine.
Je vais au cinéma, tu ne viens pas avec moi?
C'est impossible, j'ai du travail.
La femme sort, cependant qu'à gauche, le chômeur, assis sur sa caisse, commence à chanter une drôle de petite chanson.
Marche ou crève.
Grande lumière, lustre, table servie. Il prend sa femme par le bras, l'entraîne dans la rue. Il touche la bosse et rentre chez eux. Fébrilement, il décroche le téléphone.
Allô? Allô? Est-ce monsieur Spatz? Ici Gros Doré. Et comment vont les affaires? Et comment? Oh, c'est vendu? Ah, bravo! C'est une chance, hein?
Il raccroche, se jette sur la femme et l'embrasse. Un petit chien sort de sous la table. Dans la rue, le chômeur passe la main dans la coulisse en tendant la pièce.
Du pain.
Un bras sort et prend la pièce. Un autre bras sort et lui tend un pain. Mais un autre bras sort et reprend le pain. Un autre rejetant la pièce.
Cette pièce est fausse.
Bonsoir. Sa femme, après avoir passé devant le marchand d'allumettes, entre chez elle et s'approche de lui. Alors, rien?
Rien.
Rien, toujours rien. L'homme se dresse hors de lui, prend l'assiette et la jette à terre.
Ça ne peut plus durer.
Ce bruit fait sursauter. À gauche, monsieur Gros Doré, à l'instant même où il s'apprêtait à découper le poulet. Il se lève, inquiet, et la serviette autour du cou, puis met l'oreille contre le mur.
C'est vrai que ça ne peut pas durer. Faut que ça change.
Il frappe contre les murs et chante la chanson du premier chômeur.
Marche ou crève, marche ou crève.
Monsieur Gros Doré prend peur et, se précipitant au porte-manteau, met une cape et coiffe un chapeau de l'armée du salut, ramasse des reliefs de repas, les place dans une assiette et, traversant, va les porter sur la table de ses voisins en les regardant avec un bon sourire.
C'est de la part de quelqu'un qui souffre aussi beaucoup.
Puis il retourne chez lui avec précipitation et remet sa défroque au porte-manteau. Dans la pièce sombre, la femme s'approche de l'assiette. Mais l'homme l'arrête par le bras et prenant l'assiette, il sort et la jette à toute volée dans la pièce d'à côté. Terreur de Gros Doré qui se planque derrière le porte-manteau. Le premier chômeur, sorti un instant, revient. Il ne vend plus d'allumettes, mais des journaux. Il court sans arrêt, aller-retour sur la scène.
Dernière nouvelle, la crise. Dernière nouvelle, la crise. Dernière nouvelle, la crise. Dernière nouvelle.
Le deuxième chômeur et sa femme le regardent sans bouger. Chez lui, l'inquiétude commence à s'emparer de Gros Doré. Soudain, le téléphone se met à sonner sans arrêt. Le cadre où l'on voyait le portrait de monsieur Gros Doré en posture avantageuse tombe à terre et la lumière du lustre baisse subitement, cependant que le poulet s'élève au-dessus de l'assiette, monte, traverse la scène de gauche à droite et sort du champ.
Dernière nouvelle, la crise.
Gros Doré, complètement affolé, tourne sur lui-même comme une toupie. Mais ayant une idée géniale, se précipite sur le porte-manteau, prend une casquette de contrôleur du gaz, la coiffe, et va chez les deux chômeurs voisins leur présenter une note.
Je suis désolé, mais puisque vous ne pouvez pas payer, je suis obligé de vous couper le gaz.
Il se baisse, coupe le gaz. Obscurité complète chez les chômeurs. En même temps que la lumière revient chez monsieur Gros Doré. Celui-ci rentrait chez lui, la voit revenir avec un ravissement, en même temps que le poulet dans son assiette. Cependant que le premier chômeur entraîne les autres et qu'ils disparaissent tous les trois dans la coulisse, Gros Doré remet sa serviette autour du cou et va commencer de découper le poulet lorsque... Violent fracas, bruit d'hiver, cris, bois qu'on brise, la lumière s'éteint brusquement et complètement chez Gros Doré. Son domestique entre, trois bougies dans un chandelier qu'il pose sur la table. La grève ! Affolé une nouvelle fois, Gros Doré se précipite sur le téléphone, s'en mêle les pieds dans le fil et finalement sort dans la rue. Viennent à sa rencontre les deux ouvriers tchèques, le chômeur et sa femme, et le chômeur bossu. Gros Doré, apercevant celui-ci, va vers lui et lui touche la bosse. Mais le chômeur retire de dessous son veston sa bosse, c'est-à-dire un vieux chapeau melon, le coiffe, écarte Monsieur Gros Doré, entre chez lui suivi des autres, s'empare du poulet, le met sous son bras, salue Monsieur Gros Doré effondré et se retire suivi des autres portant les bougies, laissant Monsieur Gros Doré dans l'obscurité.
Marche ou crève, marche ou crève. Je crève, où allons-nous ? Nous allons dans le nord, là où il y a des grèves.
Il y en a qui meurent de faim, d'autres qui ne foutent rien. Il y en a qui font la queue aux soupes populaires, d'autres qui passent l'été à faire les sports d'hiver. Il y en a qui vivent mal, il y en a d'autres qui meurent bien. Il y en a qui clapotent dans leur lit avec des bougies tout autour. Il y en a qui travaillent toute la nuit et puis qui recommencent le jour. Est-ce que c'est une vie de vivre comme on vit ? Pourquoi faire cette vie d'enfer ? Pourquoi se laisser faire ? Est-ce que c'est une vie de vivre comme on vit ? Pourquoi faire cette vie d'enfer ? Pourquoi se laisser faire ? Surtout que tu voudrais une autre vie que ton père. Ton père l'a eu. Pourquoi que tu l'aurais pas ? Il travaillait. C'était avant la guerre. Il touchait son salaire. Il ne se plaignait pas. Est-ce que c'est une vie de vivre comme ils vivent ? Pourquoi faire cette vie d'enfer ? Pourquoi se laisser faire ? Pour nous nourrir, ma mère et mes frères, ils faisaient des heures supplémentaires. À force de faire des heures supplémentaires, ils vieillissaient. À 40 ans, il en a eu 60. C'est à cet âge-là qu'il s'est laissé glisser. Quand on est retourné du cimetière, chez nous, le gaz était coupé. Car avec l'argent qui restait, l'argent qu'avait laissé le père, on avait dû payer sa bière et aussi acheter de quoi manger. Et comme alors c'était l'hiver, on était dans l'obscurité. Moi, j'ai allumé deux bougies. Il y avait mes deux frères qui pleuraient et le plus petit qui s'endormait et la mère qui parlait du père et qui disait « Est-ce que c'est une vie ?» De vivre comme on vit. Pourquoi faire cette vie d'enfer ? Pourquoi se laisser faire ? Il travaillait dans l'électricité. Il était mal payé. Maintenant, il est dans la terre. Et chez lui, le gaz est coupé. C'est ceux qui fabriquent la lumière qui vivent dans l'obscurité. L'année d'après, on est retourné au cimetière. Cette fois, c'était pour accompagner notre mère. Il y avait des voisins qui étaient venus. Il y en avait un qui avait trop bu et qui chantait.
Pourquoi faire cette vie d'enfant ? Pourquoi ?
Maintenant, les années ont passé, mais le sort du prolétaire, lui, n'a pas beaucoup changé. Moi et mes frères, on n'a rien à faire. On n'a rien non plus à manger. On n'a que le secours de chômage. Mais c'est comme le secours au noyé. On vous sort de la flotte, on vous fait des tractions, et puis la farce jouée, on vous refoue dans le fond. Est-ce que c'est une vie non. Oui. De vivre comme on vit alors. Pourquoi faire, dites, cette vie d'enfer? Pourquoi se laisser faire alors? Non. Non, ce n'est pas une vie de vivre comme nous vivons. Et cette vie d'enfer, c'est nous qui la changerons. Il y en a qui meurent de faim, d'autres qui ne foutent rien. Et il y en a qui font la queue aux soupes populaires, d'autres qui passent l'été à faire les sports d'hiver. Il y en a qui vivent mal, il y en a d'autres qui meurent bien. Il y en a qui clapotent dans leur lit avec des bougies tout autour. Il y en a qui travaillent toute la nuit et puis qui recommencent le jour.
Enregistré en public, Jean Guidoni chantait « Vie de famille », texte de Jacques Prévert, donc un texte extrait de, des textes que le groupe Octobre disait, sur une musique de Hans Eisler. Je ne sais pas si à l'époque Hans Eisler avait déjà écrit la musique et s'il la chantait, c'est possible, dans le groupe Octobre. Donc pour faire une pause musicale dans cette émission consacrée à Jacques Prévert au groupe Octobre, avec nous dans les studios de Radio Canu sur le 102.2 MHz, la plus rebelle des radios, la compagnie Papier Froissé, qui a déjà interprété un certain nombre de ses textes, voire de ses sketchs ou même de ses pièces, puisque nous arrivons maintenant un petit peu à ce qui sera le tout de l'émission avec le Visiteur Inattendu, qui est une petite pièce de théâtre. On va en faire une mise en onde radiophonique. C'est un texte de 1939, de décembre 39, que Agnès Capri, enfin créé en décembre 39 au cabaret d'Agnès Capri. Le visiteur inattendu, donc avec la femme, le mari, le domestique, enfin plusieurs personnages que la compagnie Papier Froissé.
On tient à vous dire quand même que Capri, c'est fini. C'était en 39.
Absolument, elle est morte. On écoute le visiteur inattendu.
Petit salon, meubles, bibelots, pendule, tableau, fenêtre. Porte. Une femme va et vient. Très agitée. Son mari la regarde aller venir. Il porte une superbe barbe noire et tient son chapeau à la main. Visiblement désireux de s'en aller.
Bon, voyons, qu'est-ce que tu as? De quoi te plains-tu? Nous sommes heureux. Bah, les affaires ne vont pas très bien, mais elles pourraient aller plus mal. Et le mois prochain, nous partons pour les sports d'hiver. Et cet été, nous irons peut-être à la mer. Alors, en somme, tout va très bien. Alors, voyons, qu'est-ce que tu as?
Oh, laisse-moi tranquille. Je n'ai rien, absolument rien.
Bon, je croyais que tu avais quelque chose.
Non, je n'ai rien. Oh, et puis après tout, je peux bien te le dire. C'est à cause des petites cuillères.
Oh, encore les petites cuillères.
Oui. Sept petites cuillères. Il manque sept petites cuillères. J'en avais 12, il en reste 5. Tu peux compter, 12 moins 5, ça fait 7. Et ces sept petites cuillères, c'est la bonne qui les a volées. Oh, j'en suis sûre, cette fille me vole. Tu entends, Frédéric? Elle nous vole.
Mais tu ne devrais pas dire ça, tu n'as pas de preuve.
Bah, évidemment. J'ai beau la questionner, impossible de lui arracher une parole. Elle est têtue comme une mule. Mais moi, je suis sûre que c'est elle, hein. Oh, cette fille, cette fille! Sept petites cuillères, c'est intenable. Et puis, je m'ennuie, je ne sais que faire. tout m'irrite. Je ne peux plus supporter la radio. La modiste arrive toujours en retard et il faut que j'aille chez le pédicure. C'est un chinois. Ces gens-là me font peur.
Eh ben, va chez un autre.
Non, les pédicures chinois sont les meilleurs. Et puis je grossis, mon régime m'agace, toujours des pâtes, des légumes verts. J'ai horreur du vert.
L'espérance.
Qu'est-ce que tu veux que j'espère? Tout va mal. Le frigidaire est détraqué, l'ascenseur ne marche pas non plus, le chien tousse, maman est malade, et cette fille qui nous vole, Et puis, je veux pas aller au sport d'hiver, hein. On part en chemin de fer et on revient dans le plâtre. Et cette fille qui nous vole, hein. Mais qui nous vole? Oh, les gens sont méchants. Hier, j'ai donné 1 franc à un mendiant. Il m'a regardé de travers. Pourtant, avec 1 franc, on peut acheter des tas de choses. Du pain. Oui, parfaitement, du pain.
Mais j'ai rien dit.
Bon, non, tu dis jamais rien, hein. C'est bien ce que je te reproche. As-tu jamais essayé de me comprendre? Non, bien sûr, hein. Moi, j'ai une sale vie, et puis cette barbe, mais quand vas-tu te décider à la couper?
Mais c'est toi qui as toujours voulu que je la garde. Moi, je n'y tiens pas, au fond, à cette barbe.
Mais je t'avais dit de garder la barbe parce que tu dépensais trop avec tes cravates. Des cravates à pois, à rayures, à petites fleurs, et des cravates à 45 francs.
Bah, évidemment, oui, avec cette barbe inutile de porter des cravates, qui les verrait.
Dans tous les cas, arrange-toi, je veux que ça change.
Et quoi?
Tout. Oh, je suis trop malheureuse. Quand je sors avec toi, on m'appelle Madame Landru. Mais au cinéma, les barbus sont toujours ridicules. Ils ont la barbe prise dans les tiroirs ou dans les portes tournantes. Puis j'ai horreur des cravates à pois, à rayures, à petites fleurs. J'ai horreur de toutes les cravates que tu pourrais porter.
Bon, en voilà assez, hein, tu deviens folle.
Ah, bah tu m'insultes maintenant. Alors quelle vie, hein. Quelle vie, quel calvaire, hein. Si au moins on avait des enfants.
Bah, voyons, nous avons 2 garçons, Émile et Gaston.
Ils sont en pension.
Mais c'est toi qui ne veux pas les garder à la maison.
Bah, je peux tout de même pas garder les enfants dans une maison où il y a une bonne qui vole les petites cuillères.
Et voilà que ça recommence.
Qu'est-ce qui recommence? Ah bah tu donnes raison à cette fille maintenant, bah c'est du propre. Hein. Elle te plaît sans doute.
Elle est jolie.
Ah bah tu me provoques maintenant.
Elle se tord les bras, le mari hausse les épaules et se retire silencieusement.
Ah quand je pense, mais je pense tout de même quelque chose. Quelle vie, voilà ce que je pense. J'ai une vie tellement triste et tu n'essaies pas de me comprendre. Tiens, où est-il? Il est parti. Il me laisse seule dans un moment pareil. Anne-Marie! Anne-Marie!
Madame?
Monsieur est parti?
Oui, madame.
Qu'a-t-il dit en partant?
Rien, madame.
Je suis sûre qu'il a dit quelque chose.
Que madame m'excuse, mais je ne sais pas mentir. En partant, monsieur s'est arrêté, m'a regardé fixement et m'a dit « Anne-Marie, vous avez de beaux yeux, et si vous vouliez... » Alors j'ai répondu « Oh non, monsieur, je ne peux pas. Que madame m'excuse, mais j'ai horreur des barbus. »
Comment, non seulement vous volez les petites cuillères,
madame...
mais vous vous permettez d'insulter mon mari. Sortez! Sortez!
Mais madame...
Sortez!
Bien, madame...
Elle sort. Soudain entre dans la pièce un homme, vêtu d'un pardessus de voyage et portant des lunettes d'écaille.
Irma, oh, vous avez sûrement reçu ma lettre désespérée. Irma, il faut absolument me sauver.
Il pose sur la table un paquet qu'il portait sous les bras et continue à faire les 100 pas.
Je suis poursuivi par la police, un homme comme moi. Oh, c'est la fin de tout, mais ils ne mourront pas vivants. Oh, Irma, je ne voulais pas. Je ne pouvais pas partir sans vous embrasser une dernière fois.
Il se précipite sur la femme et l'embrasse.
Mais...
Oh, je voulais contempler une dernière fois ce petit intérieur où nous avons vécu de si doux instants. Ah, cette pendule qui marquait l'heure où vous nous attendiez. Ah, délicieuse pendule. Si j'arrivais en retard, elle retardait. Si j'arrivais en avance, elle avançait. Et tous ces délicieux bibelots, et le cher petit chat noir. Où est-il, le petit chat noir? Miaou, miaou. Romina, miaou. Où est-il, le petit Romina? Petit Romina Groby.
Soudain, un aboiement. Le chien entre dans la pièce et l'homme, se passant la main sur le front, comme les gens qui réalisent subitement la situation, s'approche de la femme et s'incline, très homme du monde.
Excusez-moi, madame, mais je crois bien que je me suis trompé d'étage.
Il va vers la fenêtre et regarde.
Et de maison. Pourtant, nous sommes bien au 22 rue des Petites Écuries.
Non, monsieur, ici c'est le 22 rue des Grands Augustins.
Oh, les Petites Écuries, les Grands Augustins, il n'y a pas tellement de différence. Bon, je me suis trompé de rue, n'en parlons plus. Mais ça n'arrange pas les choses. Qu'est-ce que je vais devenir maintenant, moi?
Je vous en prie, monsieur, calmez-vous.
Me calmer. Oh, vous en avez, vous en parlez à votre aise, madame. Des faux, oui, j'ai fait des faux. Tout un passé d'honneur et de probité, j'ai fait des faux et vous me demandez de me calmer?
Enfin, je ne sais pas.
Vous ne savez pas? Hélas, moi, madame, je sais. Et tout ça pour une femme. Pourtant, j'ai reçu une excellente éducation. J'ai appris le piano. Oh, et quand je pense à mon pauvre père, enfin, que Dieu, si vous y croyez, madame, que Dieu lui épargne la suprême honte. Enfin, mon pauvre père, auditeur à la cour des comptes. J'ai un oncle qui est amiral. Oui, madame, amiral sur un bateau. J'en ai un autre qui, dans les tissus, à Lyon. Et moi, Grégoire Pichepin d'Ombrelle. J'ai commis une faute impardonnable. Et je dois expier. Expier. Là-bas, à Casablanca, la Légion étrangère, et l'arme à la bretelle, le sac à dos, et un beau jour, en plein soleil, une balle en plein cœur, et l'honneur est sauf. Voilà.
Il s'assoit.
Casablanca, mais c'est le bout du monde.
Oui, madame, c'est loin. Très loin. Tellement loin. Et je n'ai pas un sou pour le voyage. Pas un sou, et je meurs de faim. Je n'ai pas mangé depuis 15 jours, une banane mardi dernier, hier au soir un petit beurre, et c'est tout.
Mais c'est terrible. Voulez-vous prendre quelque chose?
Ah, je vous remercie, madame, mais je ne prends jamais rien entre les repas.
Je vous en prie.
Mais non, je vous assure.
Pour me faire plaisir.
Oh, puisque vous insistez.
Anne-Marie. Oh, cette fille.
Ah, de nos jours, c'est devenu très difficile pour se faire servir, n'est-ce pas, madame?
Madame?
Du thé, des gâteaux, des sandwichs, un peu de viande froide, du porto?
Oh, volontiers. Romina! Excusez-moi, madame, l'habitude.
Vous êtes tout excusée.
L'amour rend fou, je crois.
Ah, l'amour.
La femme se lève et place un disque sur le gramophone. Puis revient s'asseoir près du visiteur. Ils se regardent silencieusement. La bonne entre avec la viande froide et se retire.
Un peu de moutarde? Vous pouvez tout me dire. Une femme sait tout comprendre, tout excuser, tout pardonner.
Oh, madame, je voudrais être un autre homme, afin de vous dire combien vous me plaisez.
Oh, dites.
Hélas, madame, c'est un proscrit, un hors-la-loi qui vous parle.
Vous êtes tout de même un homme du monde.
Ah, évidemment.
Un galant homme.
Évidemment. Mais tout de même, j'ai fait des faux.
Erreur de jeunesse.
Mais je n'ai plus 20 ans.
Elle remonte le gramophone.
Quand on aime, on a toujours 20 ans.
Elle s'approche de lui.
Long silence. Elle le regarde.
Qu'est-ce que vous regardez?
Vous avez une très jolie cravate. J'adore les cravates à pois. Vous ne portez jamais la barbe?
Non, madame. Mais là-bas, à la Légion, je la porterai.
Oh, il ne faut pas.
Pourquoi?
Parce que ça me déplaît.
Je ne la porterai pas.
Merci.
Elle va vers la fenêtre. Il s'approche d'elle.
C'est l'automne. Oh, je suis trop malheureuse, trop sensible. Quand les feuilles tombent des arbres, je souffre comme si c'était moi qui tombais. Et quand le soleil se couche, je mets le front contre la vitre et j'attends.
Vous attendez?
J'attends une visite inattendue. Hélas, personne ne vient. Personne ne m'aime. Dites. Oh, dites.
Moi, madame, je ne peux aimer qu'une seule femme à la fois.
Et celle que j'aimais avant de vous connaître, je ne l'aime plus.
Oh, laissez-moi, je ne suis qu'une faible femme. Mais j'ai beaucoup souffert.
Il la prend dans ses bras.
Moi aussi. Et je vais beaucoup souffrir là-bas. Mais je vous jure, madame,
Lorsqu'en plein soleil et en plein cœur je recevrai la balle marocaine, je vous le jure, je ne prononcerai qu'un seul nom. Le vôtre, Marguerite.
Comment savez-vous mon nom ?
Je l'ai deviné.
Oh !
Appelle-moi Grégoire.
Grégoire ? Oh, si tu savais combien je suis malheureuse avec un mari stupide et borné et une bonne qui me vole ! Qui me vole !
Vraiment ? Cette petite ?
Oui, elle me vole. Elle vole des petites cuillères. Des douzaines de petites cuillères. Et mon mari qui se néglige et qui me néglige et qui refuse de m'emmener au sport d'hiver. Oh, je voudrais partir avec toi, là-bas, à Casablanca.
Ah, c'est impossible. C'est un rêve.
Non, j'ai de l'argent. Enfin, mon mari a de l'argent. Nous pourrons partir. Loin, très loin.
C'est un rêve.
Un beau rêve.
Machinalement, elle prend le paquet posé sur la table par le visiteur en entrant.
Ne touche pas ce paquet, Marguerite.
Ah, les femmes sont curieuses.
Elles ont tort.
Oh, comme tu me parles durement.
Es-tu vraiment décidée à partir, Marguerite ?
Quand on a envie de partir, il faut partir.
C'est bien ce que je pensais. Cela fait 15 ans que j'ai envie de foutre le camp, mais je n'osais pas.
Mais qu'est-ce que vous, mais qu'est-ce que tu dis ? Mais approche-toi, regarde-moi. Oh, c'est pas possible.
Ouvre le paquet. C'est une surprise.
Affolée, elle se précipite sur le paquet et l'ouvre.
Mais qu'est-ce que c'est ?
C'est ma barbe.
La bonne entre. Elle a son propre manteau et son chapeau et tient à la main une valise.
Alors, on s'en va, oui ou non ?
Nous partons. J'emmène Anne-Marie au sport d'hiver. Et je te laisse le chien, il tousse, et là-bas, il prendrait froid. Adieu, Marguerite. Nous nous retrouverons peut-être un jour. Là-bas, sous le soleil d'Afrique, à Casablanca, Maroc.
Il sort avec la bonne Anne-Marie.
Mais c'est pas possible ! Mais c'est un mauvais rêve, un cauchemar ! Mais tu t'en vas avec cette fille, cette voleuse !
À cet instant, entre un vieux bonhomme.
Excusez-moi, madame, mais la porte était ouverte et je me suis permis...
Oh, monsieur Verglas.
Excusez-moi, madame... Mais vous deviez passer au magasin il y a une quinzaine de jours. Alors, je me suis permis. Voilà vos boucles d'oreilles. J'ai réparé les montures. Voilà la broche. Et puis voilà les petites cuillères que vous m'aviez données à redorer. Ouh, elles sont superbes. On les dirait toutes neuves. Une, deux, trois, quatre, cinq.
Comment cinq?
Oui, madame, cinq.
Mais je me souviens très bien de vous avoir apporté 6 petites cuillères.
Ah non, madame, je vous assure, 5 petites cuillères.
Enfin, tout de même, mais pour qui me prenez-vous ?
Pour qui me prenez-vous vous-même, madame ?
Enfin, mais je ne suis pas folle. Tenez, voilà les autres petites cuillères, vous pouvez compter, j'en avais 12.
Une, deux, trois, quatre, cinq, six, 7, madame. 7 et 5, 12, le compte y est.
Comment le compte ? Mais j'avais 13 petites cuillères, 13 à la douzaine, vous entendez ? J'en avais acheté 12 et on m'en avait offert une à titre gracieux, vous entendez ? À titre gracieux !
Mais enfin, madame, je vous assure que vous faites erreur. Et je suis bien placé pour le savoir. C'est moi qui vous les ai vendues.
Oh, excusez-moi, monsieur Verglas, mais je suis tellement malheureuse, si vous saviez. Ma pauvre mère est malade, mon pédicure est chinois, j'ai horreur des légumes verts. Le chien tousse, les feuilles tombent. C'est l'automne et mon mari flirte avec la bonne, vous entendez ? Avec la bonne, avec une voleuse de petites cuillères.
Thank you. Thank you.